Des rencontres particulières, des personnalités étonnantes, des vies insolites. Bonjour, c'est Guillaume sur Radio Escapade. Nous ne pouvons devenir nous-mêmes qu'en sortant de nous-mêmes. C'est le sens de cette émission, partager l'histoire de femmes et d'hommes qui se cherchent dans ce siècle où tout semble possible. Notre rencontre particulière d'aujourd'hui est plutôt une double rencontre, puisque c'est un couple que je reçois, Renata et Dimitri. Et de la Slovaquie, en passant par la Belgique, ils sont depuis 5 ans environ, libraires de la Cigale à lunettes à Saint-Hippolyte-du-Fort. Bonjour à vous. Renata, on va commencer par vous, si vous voulez bien. Vous êtes diplômée en langue et littérature slovaque et française de l'Université de Bratislava. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre la Belgique? C'est ma première question.
Alors, la Belgique, c'est pas tout à fait la Belgique, en fait. Au départ, c'est une dame française qui vivait en Belgique. Qui m'a trouvée, en fait, elle cherchait quelqu'un pour correspondre. Moi, j'étais à l'université à Bratislava. Et voilà, j'ai eu son contact. Moi, je me suis dit que c'est toujours intéressant quand on fait des études d'une langue étrangère. C'est toujours bien de pouvoir pratiquer la langue. Et voilà, donc je lui ai répondu à son contact. Je lui ai écrit des lettres. Elle m'a répondu aussi. Et puis, un jour, elle m'a invitée. Chez elle en Belgique, mais elle m'a amenée en France puisqu'elle était originaire de Saint-Hippolyte-du-Fort.
D'accord. Et vous arrivez quand même, c'est en Belgique que vous rencontrez Dimitri.
Eh ben non.
Eh ben non.
C'est bien à Saint-Hippolyte-du-Fort que je le rencontre. Oui, ça fait maintenant 24 ans, comme ça, au mois d'avril, à Pâques, on s'est... En fait, j'ai rencontré cette dame, donc elle m'a attendu bien, on s'est retrouvés en Belgique, mais deux jours après, on a pris le chemin de la France, et donc, c'est ici, à Saint-Hippolyte-du-Fort, que je suis arrivée, et c'est là que je l'ai rencontrée. C'était le fils de cette dame.
D'accord. Alors Dimitri, vous êtes d'origine belge, vous êtes belge et vous avez d'abord exercé la fonction d'instituteur.
Oui, c'est exactement ça. Donc j'étais instituteur en congé pour les vacances de Pâques et comme à chaque congé, je venais ici chez mes parents, et bien c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Renata donc.
Alors, on voit déjà le lien qui se fait avec Saint-Hippolyte. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir changer, vous aussi, de profession? Qu'est-ce qui ne vous convenait plus, finalement, dans ce métier d'enseignant?
Alors, ça, c'est venu bien plus tard. C'était un métier passion. Le jour où j'ai eu mon diplôme en Belgique, je m'étais fait la promesse solennelle de quitter le métier quand j'étais plus droit dans mes bottes, quand j'avais plus cette passion. On travaille avec des enfants, on a une grosse responsabilité. J'ai moi-même souffert dans mon parcours de prof aigri, dégoûté de leur métier. Je voulais absolument éviter ça. Donc j'ai tenu ma parole.
Donc à un moment donné, dans votre carrière, vous vous êtes dit « je suis en train peut-être de basculer alors j'allais dire du côté obscur de l'enseignement, c'est ça ?»
C'est exactement ça. Il y a un moment donné où on se rend compte qu'on n'est plus en accord avec ce qu'on nous demande de faire. Et donc, il est temps de raccrocher, quoi.
D'accord. Et alors déjà, il faut quand même un sacré courage pour pouvoir, comme ça, changer du tout au tout. Alors j'imagine que c'est aussi un choix qui s'est fait à deux.
Oui, 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 tout à fait. Puisque en plus, moi, j'ai dû refaire mes études en Belgique parce que effectivement, on s'est rencontrés avec Dimitri ici à Saint-Hippolyte-du-Fort, mais c'était des petites vacances, vous voyez. Et puis après, ben, on est retournés en Belgique. Moi-même en Slovaquie, j'ai dû encore terminer mes études là-bas. Et puis, quand on s'est mariés, on a vécu pendant 20 ans en Belgique. Et donc, moi, j'avais vraiment une envie terrible d'exercer ce métier dont j'ai toujours rêvé. Et donc, j'ai été obligée de refaire mes études d'institutrice en Belgique. Donc, j'ai quand même consacré 8 ans de ma vie aux études pour ce métier. Donc, c'était pour vous montrer que vraiment, la motivation, je l'avais. Et j'ai été quand même contente de l'avoir fait, mais malheureusement, ça n'a pas été exactement comme je l'ai toujours imaginé.
Donc, vous avez été rattrapé par la réalité du terrain, on va dire.
Oui, oui.
Et alors, pourquoi le choix, tout d'un coup, de quitter... Alors, vous quittez l'enseignement ou vous êtes à disposition parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, dans un sens, on peut encore revenir en arrière. Dans un autre, il faut aller toujours vers l'avant.
Je ne sais pas, Dimitri, peut-être.
On avait hésité au départ, mais on savait que si on n'y allait pas pleinement dans un nouveau projet, on n'irait pas à 100% dedans. Et de garder une bouée... Ça peut être bien, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si on ne coupe pas les amarres, on n'y va pas à fond dans son nouveau projet. Donc quand on n'a rien à perdre, on y va à fond, on se donne pleinement dans le nouveau projet. Et c'est ce qu'on a fait, quoi.
On a quand même une petite bouée chaque année. On reste quand même, je pense, je ne sais plus trop, je ne me souviens plus trop du système belge, mais on a la possibilité de revenir dans l'enseignement belge. Mais je pense que tous les deux, dès le départ, on s'était dit qu'on le fera vraiment seulement en cas extrême. Donc
c'est pas,
moment, c'est pas
ça, on en reparlera peut-être en fin d'émission, mais c'est pas un projet pour revenir effectivement au métier de l'enseignement. Alors, ma question suivante, c'est pourquoi le métier de libraire ? Alors, vous avez la passion de la lecture depuis tout petit, vous peignez dans le monde des livres, comment ça se passe ?
Alors, ce qui ne me concerne pas du tout, pour rien vous cacher, je détestais lire petit. Les BD, en vivant en Belgique, la bande dessinée, c'est un passage obligé, mais les livres sans images, c'était horrible. Dans mon métier d'enseignant, j'avais à cœur justement de développer ce goût pour la lecture pour mes élèves, parce que j'ai toujours trouvé que quand on n'est pas lecteur, on loupe plein de choses. Et développer cette passion pour la lecture en tant qu'enseignant, c'est bien, mais quand on peut le faire à temps plein tout le temps, c'était autre chose. Après ça, c'est la version idéale du métier de libraire, on pourra y revenir. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais il y a un peu de ça quand même.
Et vous, Renata, les livres, vos rapports aux livres ?
Oui, moi j'étais quand même une bonne lectrice. Ma maman, elle encourageait ça. J'étais une bonne élève, donc chaque année, à la fin des études, j'obtenais toujours un petit livre. J'aimais ça. J'ai un petit peu arrêté à l'adolescence aussi, mais étant donné que je suis retournée aux études de langue et de littérature, mais je m'y suis replongée et là, j'ai vraiment adhéré à 100%. Alors, en vivant après en Belgique, c'était un peu plus compliqué parce qu'au départ, la lecture dans une langue étrangère, c'était pas évident, mais je m'y suis accrochée et voilà, maintenant, lire un livre en français, il n'y a pas de problème.
D'accord. Alors, on comprend votre parcours, on comprend le choix de vous lancer vraiment et de larguer les amarres, comme vous l'avez dit, vers l'ouverture d'un commerce en librairie. Alors maintenant, on va faire le lien avec Saint-Hippolyte. Comment vous êtes arrivé dans ce petit village Cévenoles ?
Alors moi, mes grands-parents sont d'ici, hein, de Saint-Hippolyte-du-Fort, mes grands-parents maternels. Mes grands-parents paternels sont pas loin, ils étaient sur Anduze. Donc on a toujours gravité dans cette zone pendant les congés et les vacances, ça se passait toujours ici. Voilà. Donc le lien, il est pour moi assez facile. Quand ma maman, qui a fait une partie de sa carrière professionnelle en Belgique, quand elle a été retraitée, elle est revenue sur ses terres ici à Saint-Hippolyte.
Je pense qu'elle ne s'est jamais imaginé qu'on va la suivre. Elle était vraiment surprise quand on lui a annoncé qu'on va venir s'installer ici, hein, auprès d'elle. Donc je pense que c'était vraiment... elle était contente, mais surprise, vraiment, elle ne s'y attendait pas.
Très bien. Alors, avant d'aborder la deuxième partie de notre émission, qui va être consacrée plus particulièrement à comment vous vous êtes installé, comment vous vivez sur le territoire, je demande toujours à mes invités de proposer une première plage musicale. Vous avez choisi la chanson de Charles Aznavour, Emmenez-moi. Une raison particulière, un coup de cœur?
On plaisante toujours avec nos clients ou les gens qu'on côtoie, les Belges, etc. Mais oui, on est des réfugiés climatiques. Et je pense qu'il le dit un peu dans son texte, là, ça nous parle particulièrement, quoi.
Oui, la misère qui est plus facile à vivre au soleil, c'est quand même mieux.
Très bien. Eh bien, écoutez, on écoute Charles Aznavour et on se retrouve tout de suite après sur Radio Escapade.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes de reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, la, la.
Nous poursuivons notre rencontre particulière du jour sur Radio Escapade en compagnie de Renata et Dimitri, libraires de la Cigale à lunettes à Saint-Hippolyte-du-Fort. Alors, on s'est quitté avant la chanson sur votre arrivée, on va dire, sur la commune pour reprendre la librairie. Et moi, je voulais aussi vous demander qu'est-ce qui vous plaît sur le territoire de Saint-Hippolyte.
Alors, quand on y venait, nous, pour nos vacances, on avait assez peu de rapports avec la commune et avec le territoire. On avait plus des rapports familiaux, etc. Et en arrivant ici, on a été quand même grandement surpris de la richesse du nombre d'associations en tout genre, du milieu artistique aussi qui gravite dans la région. Donc, toute cette émulation était pas soupçonné au départ, et ça nous a vraiment grandement surpris. Ouais.
Et la nature, oui, la nature, il n'y a rien à faire. C'est quelque chose auquel on est tous les deux attachés. On adore les randonnées. Et puis, ben, ici, il y a mille possibilités. J'adore la Belgique, mais franchement, c'était pas tout à fait la même chose.
C'est un peu plus plat.
Oui.
Alors, vous reprenez la librairie existante, puisqu'il y avait depuis très longtemps une jolie librairie à Saint-Hippolyte-du-Fort avec monsieur et madame Coularou, qui étaient un peu une institution, on va dire, sur le village. Comment ça s'est passé? Comment vous les avez rencontrés? Et comment vous avez fait la transition avec eux?
Alors, dans notre recherche de transition professionnelle, on avait eu vent de la vente, enfin, de la mise en vente d'une autre librairie au départ sur Anduze, mais le timing était impossible à tenir pour nous. Il fallait vendre la maison, déménager, préparer nos enfants à tout ça. Donc, on n'a pas pu le faire. On a été un peu malheureux de ça. Et puis. En rencontrant M. Coularou, on a posé la question, comme il connaît tout le monde ici, comme c'est une institution, hein, vous l'avez dit. On dit, voilà, nous, on cherche un projet professionnel et on voudrait reprendre une librairie. Il dit, ben, moi, je vends la mienne. Ah ben, je dis, ben, t'as trouvé.
D'accord, banco, donc.
Banco, exactement, oui.
Alors, vous la nommez, cette librairie, elle s'appelle, d'un joli nom, la Cigale à lunettes. Comment vous avez inventé un nom aussi poétique?
À Saint-Hippolyte-du-Fort, tout est cigalois. Mais on ne voulait pas l'adjectif, on voulait le nom. Voilà, on voulait cigale en termes de nom commun et pas d'adjectif. Et donc voilà, ça nous est venu comme ça, la cigale à lunettes. C'est vrai que ça fait un peu opticien.
Oui, parfois on nous confond avec l'opticien, c'est où? Ah ben non, la cigale à lunettes, c'est le libraire.
On n'y aurait pas pensé.
Mais c'est vrai que c'est les filles qui nous ont dit, donc on avait la cigale, mais la cigale tout seul, c'était un peu tristounet. On s'était dit, qu'est-ce qu'elle fait cette cigale? Ben, elle lit, et ben, elle a besoin de lunettes pour lire, et voilà le nom.
D'accord. Alors, on a parlé des difficultés de l'enseignement, on a parlé aussi du choix, à un moment donné, de vouloir partir avant de devenir, comme vous l'avez signalé au début de l'émission, aigri par rapport à cette fonction. Ça fait combien de temps? 5 ans que vous avez ouvert?
Alors, ça fait...
En novembre 2019, ça va faire
5 ans, fin de l'année.
D'accord. Mmh. Alors, est-ce que ça vous convient pleinement? Est-ce que, finalement, là, votre choix est fait? Et est-ce que vous êtes complètement épanoui par, justement, ce changement de profession, on va dire?
Pour l'instant, oui. Après, comme dans toute situation, il y a des choses super et d'autres qui sont... moins bien. C'est vrai que le métier de libraire qu'on avait fantasmé est légèrement décalé. La réalité de terrain est un peu différente. Donc, c'est plus un métier de gestionnaire plutôt que de doux rêveur qui lit toute la journée. Donc, c'est un peu décalé, il faut s'y faire. Voilà.
Et surtout, moi, ce qui m'a surpris, parce que nous, on s'attendait à un métier de libraire, alors que nous, notre petit magasin, il est un peu multitâche, vous voyez, on n'est pas que libraire. Donc, c'est surtout moi, en tout cas personnellement, je rencontre cette difficulté où il faut être libraire, papetier, imprimeur, voilà, toutes sortes de choses à gérer en même temps et être parfait dans tout et savoir répondre aux clients sur toute question. Voilà, quand on vient me demander est-ce que vous pouvez me trouver le pinceau spécial, voilà, moi je ne connais pas toutes ces petites choses, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. L'imprimerie, j'en parle même pas.
En fait, vous agissez dans un... C'est un commerce de proximité, finalement. Oui. Enfin, ça fait partie aussi... Dans votre domaine, mais c'est un commerce de proximité.
Tout à fait, tout à fait.
Oui, et ça, vous n'y étiez pas... Voilà, vous ne l'aviez pas forcément appréhendé au départ.
On ne l'avait pas vraiment conscientisé de la sorte, surtout tout ce qui est impression. Alors, on nous demande même parfois de remplir des déclarations d'impôts. On fait vraiment plein de services... c'est plus pour aider les gens que pour... Et donc, on ne s'attendait pas à ça, mais c'est chronophage. Et donc, il faut se couper en quatre. Et du coup, ce qu'on n'a pas le temps de faire la journée, on doit le faire le soir. Ben voilà, c'était un peu la surprise. Oui.
Et est-ce que vous avez eu une formation, même voilà, quand vous avez choisi de finalement d'ouvrir une librairie, est-ce qu'il y a, vous avez fait une formation particulière, justement, qui vous préparait ou pas, d'ailleurs, à...
Alors non, on s'est lancé comme ça en fermant les yeux et Inch'Allah. Donc on a eu la chance d'avoir un accompagnement exceptionnel par nos prédécesseurs, monsieur et madame Koularou, qui nous ont coachés pendant plus d'un an. Madame Koularou m'a coaché, moi, en gestion, etc.
La comptabilité.
Tout le back-office qui se fait derrière pendant plus d'un an. Donc,
Et ils sont restés avec nous, vraiment. Je pense que nous, on est venus déjà en apprentissage 2 ou 3 mois avant la vente. Et puis, ils sont restés encore avec nous pendant 2 ou 3 mois après. Et heureusement. Parce que sans eux, vraiment, je pense qu'on n'aurait pas démarré comme on a démarré.
Non, vraiment, on a eu un accompagnement exceptionnel.
Oui, et on les remercie vraiment de tout cœur pour ça.
Et on n'oublie pas quand même que vous ouvrez en 2019 et que quelques mois après, c'est le premier confinement. Ça devait quand même assez terrible démarrer une activité et tout d'un coup de se voir briser dans son élan.
On était prêt à faire nos bagages, quoi. Vraiment, c'était dur.
Ça, on n'avait pas prévu, nous, justement, dans nos têtes, comme on vous a dit tout à l'heure, nous, il n'y avait pas de retour vraiment prévu. Nous, vraiment, on y allait, on a tout vendu, on a vendu la maison, on était vraiment décidés. Et 2-3 mois après, arrive ça, et on s'est dit, mais c'est pas possible, pas comme ça. Bon, heureusement,
on a tenu le choc, grâce à la multiplicité, justement, de l'activité. Oui. Comme on a le côté papeterie, on a pu rester ouvert en épluchant le décret qui était sorti à l'époque. On a eu la visite de la maréchaussée pour nous contrôler. Ils ont bien vu qu'on n'était pas pétier et on a pu rester ouvert.
D'accord.
Ça nous a sauvés.
Finalement, cette activité qui est la plus complexe pour vous est quelque part celle qui vous a peut-être sauvé permet d'être encore ouvert.
Tout à fait. C'est pour ça que je dis toujours, parce qu'au départ, vraiment, moi, le côté imprimeur, papetier, j'ai un peu râlé dessus, mais après, c'est ce côté-là qui nous a sauvé quelque part.
Alors on va revenir au cœur de métier. Le public qui vient à la librairie, c'est quel public dans le territoire?
Alors c'est très curieux, ici dans la commune, la majorité de nos clients sont des gens, on va dire, militants qui viennent à la librairie pour ne pas faire d'achat sur Internet et sur les sites dont je ne nommerai pas, les méchants. Ils viennent plus par conviction personnelle. Et donc, du coup, ce sont des gens qui sont habitués, ils savent, ils viennent, ils passent leur commande, ils patientent 3-4 jours, ils ont leur livre. Donc, on a vraiment une grosse part d'habitués comme ça, qui viennent par sympathie pour le lieu, par habitude. Ils allaient chez M. et Mme Koularou, ils continuent, et donc on a repris toute leur clientèle.
Donc il y a un travail de relation sociale, un travail de mise en confiance, qui est très important, j'imagine.
Oui,
il y a des lecteurs de passage qui viennent pour les vacances, et il y a ces habitués qu'il faut toujours maintenir, donc il faut avoir des choses à proposer. Et c'est à double sens parce que eux nous proposent aussi des choses qu'on n'avait pas vues sortir, etc. Donc on est plus dans un échange avec ces gens-là que dans de la proposition pure à sens unique, quoi.
D'accord. Alors justement, j'avais une question par rapport à la couleur. Est-ce que vous lui avez donné une couleur particulière à votre cigale à lunettes? Est-ce que vous lui, voilà, vous mettez en valeur plus particulièrement, je sais pas moi, ou des écrivains locaux, régionaux, ou vous êtes un peu plus éclectique?
On essaye de proposer un maximum de choses. Après, on a une superficie de vente qui est très limitée, donc on a très peu en stock et on essaye d'avoir une panoplie la plus grande possible. Alors on ne voulait pas faire une rupture avec nos prédécesseurs parce que c'était un commerce qui fonctionnait très bien. On a voulu garder leur formule, donc on garde tout ce qui est littérature régionale, historique, etc. On a peut-être un peu poussé en jeunesse, album oui. Jeunesse, on a apporté ce que nous, on avait précédemment travaillé dans nos anciennes professions. Oui. On a essayé d'élargir un peu le côté jeunesse et petite enfance.
Ouais. Et attirer justement les jeunes un peu plus en librairie parce que c'est vrai que notre clientèle est... Je pense que Dimitri sera d'accord, est quand même plutôt âgé. Et voilà, donc on est très très heureux d'avoir quelques jeunes familles qui amènent les enfants. Ce sont vraiment des habitués, mais malheureusement, ils sont peu nombreux, des jeunes familles. Voilà, petit à petit quand même, là, on remarque quand même que... Il y a quand même un petit changement de ce côté-là.
Il y a du renouveau de temps
en temps. Il y a du
renouveau,
voilà. Tout à fait.
Alors vous faites parfaitement, Renata, la transition avec ma question d'après, parce que à Saint-Hippolyte, il y a une école maternelle, une école primaire, il y a un collège que je connais bien, une médiathèque. Vous faites du lien avec les institutions scolaires, de part aussi, évidemment, votre ancien métier, et pour favoriser la lecture chez les jeunes.
Alors, on fait du lien. D'une part, on a l'école primaire qui souvent nous consulte pour faire ses commandes en livres de pédagogie et autres pour l'école. Ça, je pense, c'était une volonté de la mairie aussi de faire jouer le commerce de proximité. Et puis, on a aussi des relations avec la communauté de communes et les médiathèques du coin. Dans les marchés publics, ça fait quelques années maintenant qu'on fournit les bibliothèques de Saint-Hippolyte, de Monoblé. Enfin, il y en a plusieurs, mais je n'ai pas la liste en tête. Mais enfin, voilà. Donc, de temps en temps, on a des événements avec les animations des bibliothèques, notamment au mois d'octobre. Là, il y aura un auteur qui vient, donc on vient proposer des choses. Quand il y a eu le prix pour le lecteur de bibliothèque, on est allé sur Quissac pour avoir une présence, en fait, hein. Quand ils ont fait venir l'auteur. Donc voilà, on essaye de faire en sorte d'animer ça et de lier tous les maillons du territoire, en fait. Ouais.
D'accord. Alors justement, sur le territoire, il y a d'autres librairies assez proches. Hein. Bon, voilà, Anduze, Ganges, Sauve. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous travaillez en interconnexion? Est-ce que vous êtes concurrents les uns des autres? Parce que le combat est le même, maintenir ce type de commerce, on va dire, de proximité. Comme vous dites, les gens ne veulent pas aller consommer sur Internet, sur des plateformes internationales. Donc comment ça se passe en fait?
Bon, en fait, chaque libraire mène sa barque. On a peu de rapports entre nous, mais c'est vrai que si un client vient, il me demande quelque chose d'assez urgent que j'ai pas en stock, ben on le renvoie sur les librairies voisines, en se disant que c'est toujours mieux que d'aller sur Internet. Le temps d'attente de toute façon sera le même. Donc on a peu de relations. Alors des fois on a des petits coups de téléphone. Tiens, j'ai eu un problème avec tel auteur. Est-ce que toi aussi? Ou bien j'ai plus de bons de retour. Est-ce que voilà. Donc c'est plutôt pour se rendre service ponctuellement.
Voilà. Même lors du salon du livre qui est organisé par la mairie, la même chose. Nous étions invités en tant que libraire et c'était Alter aussi avec Alter Livre de Sauve. Et ça s'est super bien passé. On ne s'est jamais considéré comme concurrent. On s'était dit, bon, bah, puisque nous sommes au même endroit, partageons-nous un peu la littérature. Donc, nous, on prenait le côté jeunesse, puisque c'est là qu'on se sent vraiment très bien, et le côté littérature régionale, et eux, BD. Ou voilà. Donc, on essaye toujours de s'arranger pour...
Une envie commune, en fait, de pouvoir vivre ensemble, on va
tout
dire.
Tout à fait. Donc, moi, je dirais que j'ai jamais considéré les librairies voisines comme concurrents. C'est vraiment plutôt comme collaborateurs. Et puis, voilà, j'ai l'impression qu'on doit tous, nous, les libraires, se battre contre Amazon.
Ça y est, vous l'avez dit. On va faire une deuxième pause musicale. Vous avez choisi une chanson d'Angèle qui s'appelle « Bruxelles, je t'aime ». Je ne vous demande pas pourquoi, hein, ça parle tout seul.
Oui.
On l'écoute et on se retrouve juste après.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, mais moi je ne pense qu'à
Vous êtes toujours sur Radio Escapade dans des rencontres particulières avec Renata et Dimitri, libraires à Saint-Hippolyte-du-Fort. Alors on a évoqué les liens avec les écoles, le collège, et puis on parlait justement des jeunes et de la lecture en général. Donc comment vous pouvez faire à votre niveau pour attirer justement un public plus jeune que ce que vous avez peut-être l'habitude d'avoir comme client?
Alors, on essaye d'avoir un choix déjà qui soit attirant pour la jeunesse. On a investi dans un beau rayon manga qui commence à être étoffé maintenant. Ça attire en première lecture, on va dire. Même si ça rebute parfois certains parents ou grands-parents qui préfèrent qu'ils achètent du livre. Parce que pour eux, le manga, c'est pas un livre. Donc ça, c'est déjà un premier pôle qu'on a mis en place. On a commencé aussi à organiser des lectures dans la librairie. Donc le samedi soir, on fait ça une fois par mois en général, entre 18h30 ou 19h. On propose un livre, un passage, etc. Et on publie sur Facebook. Et donc c'est gratuit, les jeunes viennent, ils s'installent et puis on fait une lecture. Soit pour donner envie de lire, soit pour discuter après, échanger autour de ça.
En littérature jeunesse. Et c'est vous qui lisez ?
Oui, tout à fait. C'est pour l'instant, c'est moi. Renata va s'y mettre aussi, mais pour le moment, c'est moi. Oui, tout à fait. Et ça marche pas mal. Il y a des petits habitués qui viennent chaque fois. Et voilà, c'est juste pour faire une proposition, dire ben il se passe ça dans ce livre, etc. Et ça donne envie de découvrir ou de voir autre chose. Hein, mais voilà, c'est faire venir les jeunes. Et du coup, les parents sont contents parce que ben ils ont passé 20, 25 minutes. Et pour les tout petits, on ne dépasse pas ça. Et ils ont découvert quelque chose, quoi. Donc, c'est une proposition et il n'y a aucune obligation d'achat derrière ou quoi. C'est vraiment rencontrer, quoi. Voilà.
Et récemment, on a eu la possibilité d'accueillir les collégiens dans notre librairie. Ça, c'était au plus grand plaisir de nous deux, vraiment, parce que c'est la tranche d'âge qu'on voit, je dirais, le moins en librairie. Encore les enfants plus jeunes, je pense quand même, ça va, mais les collégiens, les ados, c'est plus difficile. Et donc là, vraiment, c'était très, très chouette grâce donc à la collaboration avec le collège. Et donc,
alors, qui a eu l'initiative? C'est le collège qui est venu vers vous?
C'est le collège qui est venu vers nous.
D'accord.
Oui.
Ce qui est très bien. Et c'est aussi l'occasion de faire toucher du doigt aux jeunes collégiens voilà, ces commerces, ces lieux en fait de vie sont très importants.
Tout à fait.
Ont un monde évidemment un peu différent et je crois que c'est les clients d'après, c'est ceux qui peuvent aussi porter ce type d'activité plus tard.
Exactement.
Oui, tout à fait. Donc, on avait été contacté par Madame Frediani, la responsable du CDI, qui voulait amener ces jeunes en librairie. Et voilà, elle nous a proposé un tableau d'action. On a embrayé, c'était très facile. On s'est laissé guider par ses soins. Et elle nous a amené comme ça trois classes complètes de collégiens qui, pour beaucoup, n'avaient jamais mis les pieds dans la librairie de leur village. Donc, c'était assez drôle de les voir découvrir. Ah, tiens, ils ont ça, tiens, ils ont ça. Et donc, faire venir au centre-ville et rentrer dans une librairie, il y a un peu... Je pense qu'il y a aussi un public qui est un peu complexé par rapport aux livres. Ça met mal à l'aise, c'est quelque chose pour les gens, je ne sais pas, ou intelligents. Et on sent qu'il y a des jeunes, même des adultes, hein, qui sont un peu complexés par rapport à ça, qui ont une image un peu du « c'est pas pour moi ». Alors que justement, on a plein de choses qui sont très faciles d'accès, et leur faire découvrir ça, pour nous, c'est bingo, on adore ça, quoi.
Et paradoxalement, la littérature jeunesse se porte plutôt pas mal, hein, en France, avec quand même beaucoup, beaucoup d'auteurs, d'autrices, d'auteurs et de publications. Et tous les ans, c'est un peu toujours l'émerveillement, enfin l'émerveillement entre guillemets, ou de se dire, ah, mais il reste encore, je sais pas, 500, 600 romans à la rentrée littéraire, etc., etc. Alors, la France lit, mais voilà, c'est vrai que peut-être que vous avez raison. Si des gens sont un petit peu éloignés de l'objet livre, c'est tout ce travail que vous menez au quotidien qui peut peut-être rassurer et ramener vers eux. Alors, dans une année, les principaux temps forts, en fait, de votre activité, voilà, est-ce qu'il y a, quels sont les moments vraiment qu'il ne faut pas louper ?
Alors, clairement, en premier lieu, c'est la rentrée littéraire de septembre qui se prépare maintenant, là, au mois de mai-juin. Rentrée littéraire qui, d'année en année, est très très prolifique, hein. Encore cette année, je pense qu'on n'était pas loin de 600 sorties sur 2 mois, c'est quand même considérable. Donc ça, c'est un événement majeur. Alors on fait des paris, hein. C'est un petit jeu, je vais parier. Alors bon, il y a des noms qu'on ne peut pas ne pas mettre, et puis il y a des choses, des premiers romans qu'il faut essayer de dénicher, de mettre en avant. Et alors là, c'est un pari, ça passe ou ça casse, c'est assez drôle.
C'est vous qui choisissez ? Ou est-ce que les éditeurs forcent un peu la main ? Comment ça se passe ?
Il y a deux pans à ça. On est soumis à un certain nombre d'offices, donc c'est ce que les éditeurs nous envoient d'office, et nous on complète par nos choix à nous. Alors parfois on se trompe, et parfois on est bien content de mettre en avant un roman qui cartonne, quoi.
Et alors, ces livres que vous recevez, j'imagine, à partir du mois de mai, vous les lisez tous ? Comment ça se passe ? Vous partagez ?
Alors, on essaye de se partager.
Prenez des notes.
Ouais, on se partage les lectures, Renata et moi, qu'on se raconte, en fait.
Oui, souvent, on lit au soir et au matin, au petit déjeuner, on se raconte.
On débrief, voilà. Et puis, on bénéficie d'aide. On a les services de presse, des diffuseurs qui viennent, qui nous font un topo 2-3 mois avant, en disant, attention, ça, il ne faut pas le louper. Il va y avoir tel et tel roman qui va sortir, et tu dois en prendre. Ça peut marcher, ça tu vas voir. Là, on aura un gros plan média pour cet auteur-là, parce qu'il va faire des passages télé, des passages radio. Donc, c'est sûr que sur ces livres-là, on va mettre un peu plus de quantité. Et puis, parfois, il y a des choses qui passent inaperçues sous les radars, qu'on a loupées. Et au moment où on veut les avoir, on n'y arrive pas, parce que c'est en rupture très vite. Là, maintenant, on sent que les éditeurs, justement, sont un peu frileux. Donc, quand ils sortent toujours des petits tirages. Mmh. Et donc après, il faut ramer pour les avoir.
Alors, est-ce que vous avez un exemple d'avoir mis en avant un roman ou un essai peu connu, peu médiatisé, et pour lequel vous avez eu un retour où les gens vous ont dit « Ah, super, bravo, c'est sympa, merci, je ne connaissais pas », etc.
Ben, il y avait un premier roman de Marie Vintras, oui, qui s'appelait Blizzard, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans maintenant, qui était vraiment passé inaperçu. Moi, on avait trouvé ça fantastique, trop court, vraiment percutant, un très très bon...
On l'avait lu tous les deux, c'est pour vous dire que, voilà, parce que d'habitude on se partage, mais celui-là, j'ai dit ça, il faut que tu le lises,
c'était moi. Et le bouche à oreille a fait que ça s'est diffusé par ici, et je ne sais pas si c'est le fruit du hasard, en tout cas les bibliothécaires du Piémont Cévenol l'avaient élu comme roman de l'année, quoi. Et donc ils ont réussi à faire venir l'auteur de Paris, on a fait une rencontre, etc. Donc ça, on était assez fiers justement d'avoir déniché ce petit roman sympa et qui n'a pas bénéficié d'un battage médiatique comme il se doit.
Et est-ce qu'il vous arrive, ou est-ce que vous dites que non, pas du tout, justement, de peut-être revenir à vos sources personnelles et se dire, tiens, voilà, un livre slovaque, un roman slovaque, un roman belge, wallon, flamand, et que, voilà, par la famille, on m'a conseillé, alors, il faut qu'il soit traduit en français ou en anglais, j'imagine, mais, et que vous dites, bah, c'est l'occasion aussi de faire découvrir une littérature que, finalement, voilà, sur le territoire, on va peut-être pas connaître tout de suite.
Ben ouais, moi, Amélie Nothomb, c'est la petite belge du truc. Chaque année, j'aime bien mettre ces petits livres en avant. Bon, c'est des petits romans très sympas. On sent qu'elle est pas tout juste dans sa tête, mais justement, comme elle est décalée, ça peut plaire. En littérature slovaque.
Moi, je pense que c'était aussi une des premières commandes que j'ai faites. J'ai commandé tout plein de livres de Milan Kundera, par exemple, pour me faire plaisir un peu. Et c'est vrai que dès que je tombe sur un livre où l'auteur, donc le nom de l'auteur se termine par Ova, je prends.
Alors, parallèlement à ça, est-ce que vous avez une ligne rouge, c'est-à-dire que dans votre librairie, il y a soit des thèmes, soit des autrices ou des auteurs que vous ne voulez pas mettre en avant, enfin, en tout cas, mettre à la vente, on va dire, ou même conseiller aux clients. Et est-ce que c'est possible ?
Alors, tout est possible. Mais alors, on est un peu, par principe, contre la censure. Le métier de libraire, c'est pas juste je propose ce que j'aime lire, je dois pouvoir proposer des choses qui peuvent me déranger. C'est un peu ça la pluralité, c'est ça, je pense, les fondements de la démocratie. C'est on n'est pas d'accord, mais on peut échanger. Voilà. Après, voilà, tout ce qui est livre politique, etc., on n'en fait pas non plus une apologie, mais que ce soit gauche, droite, extrême, machin, on les a, on les reçoit, on les met, ou on les laisse derrière. Si on me le demande, je vais le sortir. C'est pas le type de livre que je vais vraiment mettre en avant. Je préfère de la création poétique, littéraire, plutôt que ben voilà, des idées politiques de quelque bord que ce soit. Après, voilà, on est contre la censure, donc on va les prendre, mais on va pas les mettre en avant pour le plaisir de faire de la politique. C'est pas notre rôle, on fait pas de la politique, voilà, justement.
Très bien. Alors, on a parlé du temps fort, qui est évidemment la rentrée du mois de septembre. Il y a en parallèle celle aussi, un petit peu moindre, mais de la rentrée littéraire de janvier. Et hors ces deux moments, il y a d'autres moments importants dans l'année ?
Oui, hein, c'est l'été, ça c'est sûr, et puis Noël. Donc ça, ce sont les deux moments, vraiment, deux périodes à ne pas rater dans une librairie. Voilà, l'été, parce qu'on a des vacanciers, on a...
Alors, ils achètent quoi, les vacanciers, en fait ?
Alors, des petits livres de poche, effectivement. En été, on reçoit vraiment énormément, on commande aussi énormément de livres de poche. C'est, voilà, c'est la lecture de l'été, ce qu'on prend à la plage. Voilà, donc principalement ça. Et par contre, à Noël, là, on se fait plaisir et on commande vraiment des beaux livres. Voilà, là, on sait que les gens sont prêts à mettre le prix et se faire plaisir.
Et vous avez, par exemple, je reviens un peu sur les vacances d'été, les randonneurs, les gens qui viennent comme ça. Vous avez un catalogue aussi de guides locaux pour faire découvrir la région, les endroits insolites.
Oui, tout à fait. Bon, il y a tout ce qui est cartographie, bien entendu. Et puis, il y a tous les guides de randonnée, gare, Hérault, Cévennes, etc. Des cartes en relief, ça plaît toujours bien pour les gens qui ont un peu une villégiature ici. Et c'est force de proposition, c'est-à-dire que c'est des petits guides prêts à l'emploi, on prend ça dans la poche et on est parti sur les chemins. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît pas mal,
oui,
effectivement.
Oui, c'est vrai que les livres sur la nature aussi, la faune, la flore, les petits insectes, tout ça, les gens aiment bien. Donc ça, c'est vrai qu'on y va toujours. Ça, on n'a pas peur de commander.
Alors, on s'approche doucement de la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un coup de cœur actuel ? Quelque chose, là, dans les semaines qui ont... Enfin, comme ça, là, en ce moment. Vraiment, vous vous dites, ah là, il faut que j'en parle, parce que ça, c'est vraiment un super bouquin.
Alors moi j'en ai eu un, c'est peut-être ça date d'il y a quelques mois. En fait, il y a 2 ans, nous avons accueilli dans notre foie pour la première fois un chien. Donc c'est le premier chien de ma vie. Et je dois vous avouer que j'ai eu un peu du mal à m'habituer à sa présence, à ses poils surtout. Et donc je suis tombée sur un livre qui d'ailleurs aussi à la sortie n'a pas vraiment fait trop de vagues, qui s'appelle « Son odeur après la pluie ». Et je l'ai lu. Et depuis, je regarde ma chienne tout à fait différemment. Donc, c'est vrai que, et d'ailleurs, ce livre, au bout de quelques mois, là, il a vraiment énormément de succès. Et voilà, donc je dirais que c'est celui qui m'a dernièrement le plus touché.
Très bien. Dimitri ?
Oui, alors moi, le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'était lors de la rentrée littéraire, c'était Chalandon, l'enragé. Un texte coup de poing qui part d'un fait historique au départ et qu'il a romancé par la suite, mais sur les bagnes pour enfants dans les années 30 et en arrière-fond, évidemment, la montée du nazisme ici en France. Et ouais, c'était un gros texte qui n'a pas été récompensé, je pense, comme il aurait dû. Il est peut-être pas trop salon, Chalandon, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était un texte qui vaut la peine. Ouais.
Beaucoup de ses romans, d'ailleurs, ont été adaptés en bande dessinée,
oui,
de manière de très 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 belle qualité. Alors, petite dystopie pour finir, une institution locale, on ne va pas la nommer parce qu'elle n'existe pas, on va dire, vous propose un budget illimité pour organiser une manifestation autour du livre. Alors, vous n'avez aucun problème, je veux dire, matériel. Est-ce que vous auriez une idée de ce que vous aimeriez réaliser ?
C'est surprenant comme question. Je pense que je ferai appel à plusieurs collègues pour monter des étagères géantes et faire venir le maximum d'auteurs. Même s'ils sont étrangers, les faire venir pour qu'ils parlent de leurs livres. Parce que les livres qui partent le mieux, c'est ceux qu'on défend le mieux. Or, un auteur, quand il parle de son livre, il met ses tripes et ça parle. Et je pense qu'en faisant venir comme ça plein de gens différents, ça pourrait plaire à un maximum de public. Ouais, ça serait vraiment...
Voilà, ouais. Voilà, l'appel est lancé. Hein. Écoutez, si quelqu'un veut y répondre, voyez, voilà, ça sert à ça aussi la radio. Juste aussi pour peut-être aller vers notre conclusion, parce qu'on a l'habitude de voyager à l'étranger, on s'aperçoit quand même que il y a quand même peu de librairies de cette nature, comme la vôtre. Très souvent, on est sur des grandes centrales ou des magasins très grand format. On sait que la loi Lang de 1982 a énormément fait pour défendre, hein, c'est celle du prix unique, pour défendre justement les librairies indépendantes. Est-ce que ça existe aussi à l'étranger, ça? Est-ce que vous, en Belgique par exemple, est-ce que ça existe là?
Alors en Belgique, depuis peu, je crois que ça doit faire 4-5 ans maintenant que ça a été voté dans la partie francophone en tout cas, une loi similaire à la loi Lang, parce qu'on se rend compte finalement que les plateformes numériques phagocytent plein de choses, font reculer les droits du travail, font reculer plein de choses. Et donc, il était important de défendre une idée du commerce, une idée de l'échange. Or, le livre, en France, depuis longtemps, est considéré non pas comme une marchandise quelconque, mais comme quelque chose d'un peu précieux qu'il faut préserver. Et la loi Lang a ceci de particulier, c'est que comme on ne peut pas faire des prix et brader à tout bout de champ la littérature et le travail que ça représente finalement, ça le protège. Et en Belgique, francophone en tout cas, on l'a compris et on a réussi à copier un peu cette loi pour protéger le livre de la même façon. Les libraires en sont très contents, même si le prix n'est pas exactement le même qu'en France. Il y a encore du travail à faire. Le taux de TVA n'est pas harmonisé. Hein. On avait parlé d'une harmonisation de TVA. Et ils payent aussi ce qu'on appelle une tabelle, qui était une ancienne taxe sur le taux de change entre le franc français et le franc belge. Eh bien, la tabelle existe toujours en Belgique, alors qu'il n'y a plus de change.
D'accord, bah nous aussi on a envie de défendre la passion qui vous anime et votre métier de libraire et que Saint-Hippolyte du Fort continue à avoir une librairie passionnante qui attire tous les publics et notamment les jeunes. Dernière question très rapide, c'est définitif Saint-Hippo ou alors vous avez la bougeotte et allez dans l'absolu vous vous dites que vous pourriez... partir, faire encore autre chose.
Moi, je pense que dans la famille, c'est moi qui la bougeotte tout le temps. D'ailleurs, c'est moi qui ai commencé. C'est moi j'ai quitté la Slovaquie. Voilà. Et je pense que j'ai quand même un petit peu plus poussé Dimitri pour qu'on quitte la Belgique parce que il n'y a rien à faire. J'adore les Belges vraiment, vraiment de tout cœur. Mais la météo, vraiment, c'était difficile à vivre. Et donc, je pense que c'est quand même moi qui ai un peu initié ce projet de changement de vie. Mais bon, il a embrayé très vite.
D'accord. Donc, pour l'instant, vous êtes bien ici, à Saint-Hippo.
Oui. Je pense que pour moi, ce sera ma dernière étape.
Oui, moi, je n'ai peut-être pas encore dit mon dernier mot. Non, je rigole, mais voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Renata. Merci beaucoup, Dimitri,
merci
pour cette rencontre particulière et passionnante. Retrouvez cette interview sur le site de Radio Escapade et sur la page Facebook des rencontres particulières. À bientôt pour une nouvelle rencontre.
Merci.
À bientôt.